Dans le périmètre recherche, on avait également inscrit la recherche en soins infirmiers. Alors, il y a souvent des confusions hein, qui s'opèrent. On ne sait pas toujours, voire souvent, avec précision, ce dont il s'agit. Donc, il nous a paru important de nous donner un temps sur la présentation. Donc, là aussi, je vais le laisser se présenter, nous expliquer ce qu'il en est, etc., pour gagner un peu de temps. Donc, une approche de définition des concepts, hein, notamment, de poser les catégories. Et puis ensuite, à travers donc, l'intervention de Mme Laluc pour Clermont-Ferrand, nous présenter une déclinaison, un exemple concret de l'application en termes de mise en place et d'évolution des pratiques donc, de ce travail de recherche en soins infirmiers. Donc, je vous passe la parole tout de suite. On va tâcher de vous laisser le même temps.
Merci.
Ça va limiter les possibilités de dépassement, je te le dis tout de suite, mais d'accord. Au moins vous laisser le même temps pour intervenir.
Bonjour. Alors, merci à l'ADES, mais merci à Pascal Mariotti pour cette invitation et me donner la possibilité, mais aussi la responsabilité de vous présenter la complémentarité de la recherche infirmière et de la recherche en soins en psychiatrie. Donc, à la fois une lourde tâche et une recherche pour nous essentiellement en sciences humaines. Donc, une recherche qui fait partie de ces recherches non rentables, comme il a été dit. Un plan de présentation rapide. Donc, je vais vous présenter un peu l'état des lieux de la recherche en soins en France et notamment à travers les PHRIP. Ensuite, je vais vous parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire de notre propre recherche, de notre question de recherche, des objectifs de notre étude et de leur contexte dans lequel on est venu à la recherche en soins. Un petit aperçu sur ces aspects complémentaires de la recherche qui sont ici le recours aux méthodologies qualitatives qui sont effectivement d'une autre nature. Puis l'illustration des résultats, un rapide passage, avant de passer à l'utilisation, la finalité d'une recherche, c'est-à-dire sa déclinaison et sa réintégration dans les pratiques, si possible. Ça sera l'objet de la discussion et ça sera l'objet de nos conclusions. Simplement pour dire que sur les recherches humaines et sociales, et pour relancer un peu l'intervention qui a eu lieu avant moi, rappeler que déjà en 2000, puis dans le PPSM 2005-2009, il était affirmé la place des recherches en sciences humaines et sociales, que le Cour des comptes de 2011 a pointé l'absence de priorité qui avait été donnée dans le PPSM. C'est aussi des remarques qui nous concernent parce que la recherche en soins infirmiers est aussi en grande partie issue de ces méthodologies. Alors, quand on parle de recherche, de quoi on parle en parlant de recherche infirmière ? Se mettre en recherche, c'est le travail de la question. Et monter un travail, une question issue d'une situation de terrain, la monter dans un cadre scientifique, c'est passer d'un niveau d'étude, d'un niveau de problématisation, à un niveau de recherche. Se former par la recherche, depuis l'évolution des formations, on le verra sur la planche d'après, les formations initiales ont évolué et sont dans la formation initiale des infirmiers en 1992 puis en 2009. Il y a des éléments de formation par la recherche qui ont été intégrés, mais qui ont pour finalité d'augmenter la rigueur de pensée de nos collègues infirmiers. C'est différent donc d'une formation pour la recherche. De quoi parle-t-on quand on parle de recherche infirmière ? Premièrement, on parle de recherche, donc d'une dimension scientifique, c'est-à-dire notre recherche a été adossée au Conseil scientifique de la recherche du Vinatier. Il y a d'autres cadres d'accueil qui peuvent être universitaires ou PHRIP pour accueillir les recherches. Mais quand on parle de recherche infirmière, c'est-à-dire que le promoteur de la recherche est ici un infirmier et qui s'intéresse aux différentes dimensions de l'activité infirmière, qu'elles soient organisationnelles, pédagogiques, managériales ou en lien avec l'activité de soins. Quand on est du côté de l'activité de soins, c'est-à-dire on parle de recherche en soins infirmiers, autrement dit, quelle est la contribution spécifique aux soins des infirmiers ? S'il y a un autre métier ou un autre métier paramédical, ça sera une recherche en soins d'un autre type. Donc le terme générique, c'est recherche en soins, et moi, puisque je suis infirmier, c'est une recherche en soins infirmiers en psychiatrie. Enfin, les éléments de confusion sur la recherche, effectivement, on les entend souvent parce que ces préalables ne sont pas toujours suffisamment affirmés et que ce champ définitionnel, quand il n'est pas suffisamment soutenu, finit par être préjudiciable parce qu'il y a un grand écart aujourd'hui entre parler de la recherche et la faible activité de recherche qu'on peut avoir en France, on le verra, et en particulier en psychiatrie, même si notre discipline est là aussi en émergence et en mouvement. Alors, le point un peu sur la situation de la recherche infirmière en France. Reprenons les grands états de la recherche, c'est-à-dire 1958 pour la recherche dans le domaine médical. Puis on arrive à 1991, où c'est la première fois, avec la réforme hospitalière, la création des commissions de soins infirmiers, que cette dimension est affirmée dans les textes concernant le métier d'infirmier. 93, modification du décret régissant la profession infirmière, qui renforce cette orientation. 92 à 95, en parallèle des formations initiales et spécialisées, il y a un module d'initiation à la recherche et concrétisé en formation initiale. Enfin, en 2002, les dernières formations spécialisées, qui étaient les formations IAD et IBOD, connaissent également un module d'initiation à la recherche. Puis, 2009, l'universitarisation de la formation, l'inscription du DUI dans le grade de licence, le renforcement des enseignements à la recherche et le mémoire de fin d'études qui utilisent une logique et une problématisation, une rigueur de méthode issue des méthodes de recherche. Voilà. Enfin, dernier point, 2010, la mise en place ici des PHRIP. Alors, ces programmes ont été initiés en 2009 par le ministère chargé de la Santé et leur première déclinaison a eu lieu en 2010. Au départ, elle était uniquement pour les infirmiers. En 2011, c'est devenu les PHRIP, c'est-à-dire un élargissement de la recherche infirmière et également pour la recherche pour les paramédicaux. Sont concernés l'ensemble des professions paramédicales. Les projets sélectionnés ont pour objectif de fournir des connaissances fondées sur des bases scientifiquement validées pour contribuer à l'amélioration continue de la qualité des soins et l'amélioration des pratiques. Enfin, l'affirmation de la dimension du soin est à comprendre dans une acceptation large qui intègre et dépasse les seuls soins visés curatifs, c'est l'ensemble des soins visés préventifs, réadaptation et également les soins à visée palliative. Concernant les PHRIP, on a maintenant 5 années de recul, ça fera la 6e année, les derniers devis de recherche sont en train d'être examinés au niveau de la DGOS. On voit que il y a eu 104 aujourd'hui, enfin pour 2014, projets qui ont été validés. Ces 104 projets représentent à peu près 530 dossiers qui ont été déposés sur l'ensemble de ces années. Les 3 premières années, c'était un peu expérimental, la mise en place des PHRIP. Et puis on a vu qu'effectivement, il y avait une certaine opérationnalité dans les résultats au bénéfice du patient et que la place des PHRIP a donc été consolidée. Ce qui fait que les budgets ont suivi. On est passé de 951 000 en 2010 à 4 400 000 en 2014. Certes, on est sans doute encore loin des financements dont a fait état le professeur Bougerolles, mais c'est quand même une affirmation qui n'est pas négligeable. Le deuxième point, c'est que les PHRIP ont représenté moins de 1% de l'ensemble des budgets PHRC dans les années 2010, et maintenant on arrive à peu près à 3% du volume de l'ensemble des crédits de financement à la recherche. Une particularité à l'intérieur, c'est regarder le découpage concernant notamment le découpage disciplinaire. Il a été dit qu'il y avait une certaine faiblesse de la recherche en psychiatrie et on la retrouve aussi dans le constat vis-à-vis des PHRIP. Premier point, sur les 104 projets, il y a à peu près plus de 90 projets qui sont issus de dynamiques sur site CHU. On le comprend, adossés à des logiques de moyens, à des logiques de culture, il y a des éléments qui sont facilitants. Si on regarde ensuite les projets issus de notre champ disciplinaire, j'en ai compté une dizaine sur l'ensemble de ces années. Si on prend l'année de référence 2015 pour l'ensemble des PHRIP dans l'appel à projet, il y a eu 50 lettres d'intention. C'est celles qui vont être en partie retenues pour ensuite les financements de projet. Et dans ces 54 lettres d'intention, il y en avait une seule concernant notre discipline. Donc ça, c'est un état aussi. Il y a une montée un peu en puissance et en exigence sur les projets de PHRIP et qu'effectivement, il y a des écarts qui sont après se creuser. Donc, les établissements de psychiatrie, qui pour beaucoup sont, comment dire, monodisciplinaires, se retrouvent un peu dans cette situation. Pour parler de notre recherche, pour vous donner un peu, je vais vous inviter à me suivre dans ce qui a été notre cheminement. Notre recherche Après une étape exploratoire, on a essayé de se centrer sur l'informel dans les soins, c'est-à-dire qualifier l'ensemble des actions du rôle propre infirmier, et ici, dans le cadre de l'hospitalisation temps plein. C'est donc une étude qui a été faite en hospitalisation temps plein. L'hospitalisation temps plein n'a pas été choisie par fascination hospitalo-centrée, mais a bien été choisie comme étant le lieu de l'offre de soins où l'écart entre la prescription ou la programmation d'activité était le plus important avec le soin non programmé et la place et la dimension du rôle propre en psychiatrie. Dimension et travail de l'infirmier, dont on sait dans notre champ disciplinaire où la part d'exécution du travail est beaucoup plus relative, l'autonomie des soignants peut être également plus importante et concourir à différents niveaux, sur les différents sites d'intervention, concourir aux soins. Donc une thématique centrée sur les dimensions de l'analyse du travail et une thématique qui rejoint la question de la visibilité du travail. Ordonner et choisir cette caractérisation de l'informel en 5 points. Il y a d'autres termes pour parler de cette activité invisible. On parle d'activité inconnue également. Et on a choisi ce terme pour 5 raisons. C'est une approche transdisciplinaire. C'est un terme qu'on retrouve dans d'autres disciplines qui peuvent venir éclairer les soins infirmiers. C'est une thématique à l'entrée large. On peut aussi bien caractériser une approche singulière dans l'interaction patient-infirmier que vis-à-vis du groupe et les soignants, mais également sur le support de l'équipe en dehors des interactions. C'est une activité par définition hors prescription, puisqu'elle est du côté du rôle propre. C'est une activité qui s'inscrit dans un continuum, à savoir que toute activité, toute tâche, entre chaque tâche, il y a un élément qui fait un élément de liaison entre l'activité, et c'est le continuum qui fait le passage et l'articulation d'une tâche à une autre. Enfin, c'est une notion qui rejoint potentiellement, enfin qui garde potentiellement une idée processuelle. Ce qui est informel à un moment donné peut se formaliser d'une certaine manière, même si ce n'est pas sa finalité, ça peut être une de ses possibilités. Maintenant, les objectifs de notre recherche en soins, sont des objectifs de visibilité et de lisibilité de nos actions de soins au quotidien. Il a été rappelé ce matin par Jean de Beaupuis que la pratique de soins, l'importance de rendre lisibles nos pratiques de soins avant de penser effectivement à pouvoir les évaluer. Rendre lisible une partie de notre activité visible, c'est l'idée de déchiffrer l'activité avant de pouvoir effectivement la chiffrer. Le deuxième point, c'est la caractérisation, c'est-à-dire que les éléments qu'on peut définir puissent être effectivement repérés, solidifiés, et puis voir en termes de transférabilité. Et le dernier point, c'est logiquement la contribution, la mise en perspective du rôle propre. Quelle est la contribution infirmière du soin, par exemple, en hospitalisation temps plein? Comment est utilisé ce temps? Et à quelle finalité au mieux? Rappelons-nous le contexte d'émergence qui a été le nôtre. Le premier point, c'est les réformes successives des formations initiales infirmières qui ont vu fortement diminuer, soumis à une logique soustractive, les contenus de formation initiale en termes de volume. 1376 heures en 79, 440 en 92, 80 heures aujourd'hui. Certes, il y a eu un changement de maquette, on est dans une logique socio-constructiviste, là on était dans une pédagogie par objectif, mais on a perdu 95% des contenus en formation initiale. Le deuxième point en psychiatrie, c'est la question de la saisie de l'activité. Et les premiers outils qui sont arrivés étaient peu ou très mal adaptés pour saisir l'activité infirmière au quotidien, notamment en unité temps plein, où beaucoup de séquences se déroulent avec le quotidien, en appui sur le quotidien. Donc ça, c'était les questions de situation d'appel et d'insatisfaction. Un dernier point, c'est l'aspect quantitatif de l'informel. Grosso modo, dans l'état de la littérature, on a retenu 50%. Et ça serait mieux avec le texte. Et on a secondairement vu des études qui, là, ne concernent pas vraiment l'informel, mais l'écart entre le travail des infirmiers et sa traduction en termes de saisie. L'ensemble de ces études s'intéresse aux soins directs en contact avec le patient, soins indirects en lien avec le patient et activités indirectes sans lien avec le patient. L'ensemble de ces études n'a donc un Suisse, Estrin-Béard 2007, IJAS 2007, Mainville 2015. On arrive à des chiffres respectivement de 28%, 33%, IJAS 36%, Mainville 37%, Pelletier 37%. Donc, autrement dit, l'ensemble de ces études remarque qu'une infirmière passe un tiers de son temps en soins directs et que les deux autres tiers de son temps en unité d'hospitalisation, quels que soient les sites, ici psychiatrie et milieu général somatique, les deux tiers de l'activité sont partagés entre la prescription au service du médecin et au service de l'institution. Pour notre enquête, on a travaillé sur des modèles théoriques pour pouvoir alimenter nos caractérisations. Trois modèles, le modèle historique de la psychothérapie institutionnelle qui avait pensé cette globalité du soin, le modèle de la psychodynamique du travail qui a pensé l'écart entre le travail réel et le travail prescrit, il n'y a pas de travail de simple exécution, et la praxéologie qui est une réflexion sur l'action, en cours d'action et après l'action. Alors une autre recherche a porté, en termes de méthodologie, une méthodologie de recherche qualitative descriptive, méthodologie en sciences humaines appliquée au domaine des soins infirmiers. Une étude multicentrique, c'est-à-dire qu'on a investigué quatre établissements représentatifs de l'offre de soins sectorisés en psychiatrie publique, c'est-à-dire ESPIC, public, psychiatrie et l'hôpital général, secteur de psychiatrie, et psychiatrie sur site CHU, multicentrique pour justement avoir les effets de croisement et de comparaison. Choix des méthodes de travail, triangulation des modèles d'analyse, concrétisé par la triangulation des axes théoriques. Nos outils d'investigation en méthodologie qualitative. Si on a travaillé, par exemple, pendant l'enquête exploratoire avec l'entretien semi-directif, on a bien vu que l'entretien nous ramenait, en termes de matériel empirique, uniquement la mise en mot, c'est-à-dire les actions conscientisées. Donc, on a ajouté deux autres outils qui nous permettent la triangulation, issus ici de l'ethnométhodologie, que sont les observations, être avec les collègues sur des séquences de travail et choisir des séquences de travail où l'écart est potentiellement le plus important entre le travail prescrit et le non programmé, l'après-midi, matinée de week-end et les nuits. Enfin, un dialogue en interaction avec l'action, c'est arrêter l'action ou interroger l'action à faible distance. Pourquoi tu as fait ça ? Pour inviter à une mise en mots et un réfléchissement de l'action. Enfin, au niveau de nos modèles d'analyse, on a travaillé avec des analyses descriptives et catégorielles, puis une analyse par théorisation ancrée qui nous a permis de catégoriser l'ensemble de ces savoirs d'action. Et ensuite, on a travaillé sur la saturation des données. C'est pour ça que notre cœur de recherche, on a identifié, caractérisé 139 fonctions en lien avec cette activité d'informel. Et enfin, une analyse croisée qui permet la localisation des savoirs incorporés. Et effectivement, on le verra, on l'a vu dans nos résultats, les savoirs incorporés, c'est-à-dire les savoirs d'action qui ne peuvent pas être mis en mots parce que l'opérateur ne sait pas qu'il sait dans son action, c'était intéressant de savoir où ils sont localisés et sur quelles fonctions dans les soins. Ça, c'était l'exigence de regard épistémologique. Alors, on a travaillé par fonction pour définir nos résultats et pour qualifier l'action, plutôt qu'une logique actionniste ou une logique intervention à visée d'eux. Une fonction. On a notre matériel empirique, c'était 3100 unités d'action, et notre caractérisation finale, c'est 139 fonctions qui se font dans les soins infirmiers, dans les unités, au jour le jour, dans les unités qu'on a pu investiguer. La fonction permet d'explorer les aspects périphériques de l'acte. Qu'est-ce qui se passe autour ? Le pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? Elle vient répondre à cette question. Une approche qui lie donc l'action et la réflexion. Enfin, la fonction permet une représentation finalisée de l'action. Je fais ça parce que je vais voir ce patient parce que je sais que demain, la question de l'observation va entraîner un certain nombre d'appréciations. Donc, ça organise un scénario psychique professionnel. On a travaillé par trois niveaux d'investigation sur le patient, le professionnel et ce tiers indissociable que représente l'équipe. Enfin, on a travaillé dans nos résultats, on a pu dégager trois niveaux de résultats, le cœur de la recherche, ensuite un traitement quantitatif, c'est-à-dire les variables, où ça se passe, avec qui ça se passe, à quel moment. Et enfin, le dégagement des invariants opératoires, c'est-à-dire les éléments qu'on a retrouvés sur tous les sites auprès de tous les professionnels et qui définissent des pratiques communes et partagées. Alors, ces aspects nous ont fait dire, et notre parti pris, qu'avec un certain nombre de nos patients, les difficultés de communication, les biais d'attribution d'intention, faisaient que la relation est à construire ou à construire à nouveau. Et que donc, il y a une mise en forme de la relation et de ses éléments de base. Et que toute forme, effectivement, apparaît dans l'informe et non l'inverse. C'est vrai d'un certain nombre de nos activités. Je pense à la sculpture ou au dessin. Une opposition distinctive donc, entre le fond et la forme, une base et des savoirs de base qu'il s'agit à ce niveau. C'est ce qu'on a appelé l'infraordinaire ou l'endotique. Et regarder ce qui se passe, effectivement, dans ces zones du soin au quotidien. La question qui se pose, c'est donc la place attendue de ces savoirs de base, de ces savoirs généralistes du métier d'infirmier et des métiers du soin psychique en général et des savoirs spécialisés à côté. Des éléments de base et des éléments spécialisés. Ensuite, on a travaillé, je vous fais quelques résultats pour illustrer notre propos, avec des fonctions qui sont des fonctions génériques et puis des fonctions qu'on appelait des fonctions primaires. C'était notre arbre de caractérisation. Ainsi, là, on a parlé, par exemple, de fonctions transgression novatrice. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, par exemple, ou de prise de risque? La transgression novatrice, c'est évidemment pas le franchissement d'un interdit lourd. C'est l'idée que, dans une innovation, il y a forcément une transgression derrière. Et ici, l'innovation, on l'entend du côté d'un renouvellement d'un mode d'accès aux patients, des modes d'accès qu'on n'a pas utilisés et qu'on n'attendrait pas forcément, mais qui sont pas des modes, qui élargissent ou alimentent les répertoires de ressources professionnelles. Par exemple, la fonction de singularisation, c'est une fonction qu'on a pu observer. C'est une manière de faire vivre positivement le patient vis-à-vis du groupe et vis-à-vis des soignants par rapport à une ressource qui est connue et partagée de l'ensemble. On connaît les effets de l'internalisation de la maladie et de ses effets négatifs. C'est donc une action qui vient à l'envers. La fonction d'évaluation, c'est une fonction d'autonomie dans le cadre du rôle propre. Elle part d'une observation en situation. Il y a un raisonnement clinique sur cette observation. Il y a un processus décisionnel qui vient modifier un élément du cadre de soins. La fonction d'initiative, par exemple, est une fonction absolument multiple. Et cette fonction, elle touche des tas d'aspects. C'est la possibilité de modifier des éléments du quotidien. Et là, il y a quelque chose qui a été dit également ce matin dans cette idée, c'est que l'utilisation du quotidien permet une certaine régularité, une certaine familiarité pour sécuriser le quotidien, qui est un élément de la dimension des soins en unité d'hospitalisation, et en même temps soutenir la balance paradoxale que le quotidien n'est pas la chronicité, que ça reste en mouvement. Donc c'était des collègues qui modifiaient les tables du réfectoire ou des éléments comme ça. Soutenir une familiarité et laisser du mouvement à l'intérieur. La fonction humour et rire est une fonction absolument transversale. Marie Laluc nous en dira quelques mots peut-être. Et la fonction d'individualisation, sur cette part-là, par exemple, c'est une fonction qui consiste à retirer le patient du groupe à un moment donné, quand il y a quelque chose de particulier à lui dire, le soustraire d'une exposition qui ne lui est pas bénéfique ou des éléments comme ça. Par exemple, je vais vous développer. Ensuite, je prends une fonction pour vous montrer comment la développer. Prenons la fonction qu'on a nommée parole en acte, la place de la parole, vecteur principal du lien, la place du logos en psychiatrie, faire parler le quotidien. Faire parler le quotidien, ce qu'on a vu, c'était cette capacité, cette action parlante à démutiser l'ensemble de son récit, de son objectif, de son accompagnement. Et finalement, c'est pour limiter les biais d'interprétation ou les biais d'attribution d'intention, cette démutisation. La parole est donc à ce niveau un acte, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est posé. La parole comme vecteur de la construction du lien. On a repéré 3 niveaux de parole, par exemple, dans cette fonction. Ce sont des éléments de base, mais ce sont des éléments sur lesquels on va utiliser quotidiennement, à tout moment, tous les jours et avec tous les patients. Premier niveau, être de parole, tenir sa parole. Double assertion du terme. On est des hommes, on est des êtres de parole, et être de parole, c'est tenir sa parole parce que la parole nous tient. Et donc, c'est réaffirmer le primat et la primauté de la fiabilité de la parole. C'est la gestion du renvoi. Quand je dis dans 5 minutes, c'est dans 5 minutes. Et si je ne peux pas venir dans 5 minutes, je vais communiquer sur mon disponibilité renouvelée. C'est-à-dire redonner une fiabilité à la parole, limiter l'écart entre faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Un deuxième point de parole, c'est reprendre la parole. C'est la gestion des cadres avec un certain nombre de nos patients. Il y a un cadre, c'est l'idée de la fermeté souple. Et à l'intérieur de ce cadre, j'ai une demi-heure avec vous. Comment voulez-vous qu'on s'organise ? Ce sont ces éléments qui permettent des reprises de parole. Un troisième point, par exemple, c'est l'effet spéculaire de la parole. C'est parler, dans ce qu'on a vu, des soignants qui parlaient autour d'eux, qui commentaient des éléments d'observation, dynamique, sensorielle, comportementale, sur un ou des patients, dans une fausse aparté, pour augmenter le champ d'attribution et de signification. Ce sont autant de petits savoirs qui, isolément, n'ont pas d'effet, mais qui, collectivement, repris, mis en connectivité, définissent des attentions, caractérisent en tout cas les qualités d'un dispositif. Des actions de cognition sociale. On a repéré la fonction, par exemple, explicitation, qui est une métalangage, des ajustements linguistiques à distance des différentes séquences de la vie institutionnelle. Le traitement, qu'est-ce qu'on a voulu me dire ? Des choses qui n'ont pas pu être réinterrogées. La fonction réglage. Cette fonction, telle qu'on l'a définie, ce sont les multiples ajustements permanents qui permettent de mieux comprendre de l'un à l'autre, de faciliter les différences entre les codes culturels ou les codes de bienséance ou les codes qui sont liés à la sémiologie, à la lecture de la présentation de l'autre et qui contribuent à affirmer des tolérances et des entraides parfois remarquables. La fonction psychodramatisation. Par exemple, cette fonction, elle s'appuie sur un éprouvé réel et elle est théâtralisée, majorée, surjouée, donc sur les grandes émotions, pour majorer l'attribution d'attention et augmenter le niveau de signification. Donc ce sont ici des actions de cognition sociale dans des moments où les patients en ont le plus besoin. On peut l'imaginer dans des situations à l'hôpital. Un autre exemple donc, de travail, je ne vais pas vous la développer plus, mais c'est simplement pour illustrer la manière dont on a travaillé. Une fonction qui, je crois, est importante à la fois en termes symboliques et en termes de compréhension de la nature de l'activité des infirmiers en hospitalisation et dans d'autres sites. Cette fonction, on l'a appelée immersion. Action volontaire d'aller au contact du groupe patient sans autre intention que d'aller au contact du groupe patient. Je n'ai pas de stéthoscope, je ne vais pas le chercher. Donc, cette action, de par ce mouvement, va générer des propriétés particulières. La dimension d'indécidabilité du statut de l'action est justement le porteur de son efficacité. Ce qui va se jouer dans ces moments. Est-ce que l'infirmier fait son travail ou est-ce qu'il fait quelque chose parce qu'il a envie de le faire et que c'est lui ? Et donc, ce questionnement, cette ouverture d'un espace transitionnel va avoir plusieurs particularités. Le premier point, c'est l'observation périphérique, observation individuelle et groupale, dans l'unité. Deuxième point, c'est l'offre de disponibilité. Troisième point, c'est l'abaissement du niveau de relation et du niveau d'interpellation à l'autre. L'ensemble de ces éléments vont favoriser effectivement une vie ensemble et un accès plus facile aux différents professionnels. Ce qui nous fait dire et ce qui nous fait approcher d'une autre manière la question de l'acte. On est dans une logique actionniste en France depuis la Révolution française et que si on regarde les différents niveaux d'actes tels qu'ils ont été définis par le BORTEF, l'acte, faire un entretien, une prise de sang, et puis maxi-acte, et le plus gros des actes, j'ai oublié le nom, et puis mini-acte et micro-acte pour ce qui nous intéresse. Autrement dit, des petites actions qui ne peuvent pas accéder au statut d'acte parce qu'elles n'ont pas l'épaisseur suffisante. Mais en psychiatrie, on sait particulièrement que l'ensemble de ces registres sont importants et que cette distinction existait déjà, on a vu ce matin, par rapport à l'électricité, dans l'Antiquité, avec le pratein et le poein, c'est-à-dire des activités qui n'existaient que pour elles-mêmes et des activités qui avaient comme finalité une production. Une dernière fonction du côté de l'équipe, et regardez comment ces fonctions peuvent concourir aux soins. Cette fonction, on l'a appelée alimentation de l'empathie. Il y a des situations de saturation dans des expositions avec des patients dont les présentations bruyantes réitérées viennent émousser le capital compassionnel des soignants. Or, être soignant, c'est retourner vers le patient en travaillant son contre-transfert et en renouvelant une capacité compassionnelle. Et la technique qu'avaient trouvée les soignants qu'on a observés se situe en deux temps. Le premier temps, c'est l'évacuation du trop-plein, les éléments négatifs émotionnels, pour retrouver une homéostasie émotionnel. Et le deuxième temps, c'était l'appui sur une vignette partagée par l'ensemble du collectif au travail qui mettait le patient dans une situation positive, plaisante et généralement ludique, et dont la caractéristique était d'être partagée par le groupe, et que ça modifiait effectivement le regard, l'état interne, et qui permettait et facilitait le retour vers le patient. Ces questions, apparemment simples, sont importantes quand on voit ou quand on voit revenir des questions sur les impasses thérapeutiques, sur les questions de lassitude avec un certain nombre de patients. On voit que ce type d'action permet effectivement de maintenir, de préserver ses capacités soignantes. Un deuxième, vite fait, un deuxième point sur le deuxième niveau de résultats. Ce sont les variables de lieu, les variables de temps. On s'est intéressé également à savoir qui du patient ou des soignants était à l'équilibre de la rencontre, à l'initiative de la rencontre dans les unités. Et comment s'équilibrer effectivement ces deux. Est-ce que c'est le patient qui vient vers le groupe soignant? Qui, dans ces cas-là, on sait que ce n'est pas tous les patients, et on sait que c'est la primauté du symptôme qui va être majoritairement le langage culturel de l'hôpital. Et le deuxième point, comment les soignants vont investir l'ensemble de l'unité et comment ça s'organise. Ce qu'on a pu repérer, c'est que quand il y a une offre suffisamment importante des soignants dans l'unité, cette offre de disponibilité abaisse le seuil de la demande et le constat qu'on a fait sur les 8 unités, il est un peu rapide ici parce que ce n'était pas notre objet, c'était que ces unités étaient vivantes, certes, mais il y régnait une certaine quiétude. Enfin, on a travaillé sur les éléments, une analyse croisée sur la localisation des savoirs incorporés. Ce point, juste pour vous montrer, par exemple, que sur la localisation topographique dans la vie des unités, des productions d'informels, on a le bureau infirmier un peu en haut, et puis tout en bas, les espaces qui sont sur fond blanc sont les espaces qui étaient communs à l'ensemble des unités investiguées. On a les lieux de circulation. C'est-à-dire que les couloirs, le hall, en psychiatrie particulièrement, ne sont pas que des lieux de déplacement, des artefacts architecturaux. Ce sont des lieux qui sont pris dans un ensemble et que de cet ensemble va se créer effectivement déjà des premières observations, des premiers contacts, des premières facilitations. Et c'est la deuxième source effectivement de production d'informels. Un autre point qui va avec l'idée du continuum, c'est qu'on a regardé sur une courbe temporaire la production d'informels. On voit qu'il y a des pics et que ces pics d'activité correspondent au moment formalisé, notamment le temps de relève des soignants, et qu'après un temps de relève formalisé, il y a toujours un pic pour toutes les questions qui n'ont pas pu être traitées pendant ce temps. Alors, le troisième niveau, et donc dernier niveau, nous donne une idée des caractéristiques, de certaines caractéristiques des invariants. On a repéré en psychiatrie ce qu'on a nommé la double tension. On a une tension de programmation d'activité liée à sa séquence de travail et sa programmation. Et puis, en fonction notamment de la connaissance clinique et de la maturité, il y a une tension de réactivité. Ces deux tensions ne sont pas parallèles. Elles sont asymptotiques. Elles sont appelées, effectivement, mais elles ne se rejoignent jamais. La tension de réactivité, c'est réagir à des signes, une sémiologie du quotidien, une manière effectivement qu'ont les patients de se présenter et de repérer dans quelque chose qui se détache sur le fond, habituel, inhabituel. Et là, il y a une intervention qui modifie, qui fait arrêter l'action programmée, qui déclenche une intervention, une reprise de l'action programmée, et ça de manière incessante. Ce qui fait qu'une des particularités de ce hachage, c'est la reprogrammation mentale de l'activité. Plus la connaissance des patients, plus la connaissance de la sémiologie est importante, plus la fonction de réactivité est importante sur la fonction de programmation. Le deuxième point, c'est les déplacements qu'on a pu observer. C'est ce que Bourdieu appelle un exis corporel, des déplacements légers sans précipitation, pas de hausse de voix. On va rencontrer son interlocuteur pour parler. Et ce sont des éléments qui définissent aussi, en termes de groupe, une forme d'enveloppe. Les seuls éclats qu'il pouvait y avoir étaient du côté, par exemple, de la joie et de l'humour. Donc des éclats du côté des formes significatives de la vie. Les portes ouvertes, on a vu ça sur l'ensemble des unités investiguées, dans les temps informels, c'était une manière de travailler avec potentiellement sous le regard des patients. Ce qui veut dire une localisation mutuelle, une offre de localisation possible et qui permet aussi le travail de la réactivité et de la double tension. On s'est intéressé aussi à la satisfaction au travail des collègues. Et là, l'enseignement est important, surtout dans les questions d'RPS ou d'exposition et de burn-out. La satisfaction au travail des infirmiers, ils nous ont dit, c'est quand on a pu faire ce qu'on devait faire et qu'on a pu faire ce qu'on voulait faire. Le rôle prescrit et le rôle propre. Et quand on demandait, pour aller plus loin, aux infirmiers, mais qu'est-ce que vous vouliez faire?
accorder un moment significatif à chacun était la réponse dominante. Alors, le statut épistémologique de l'informel à partir de ces éléments. Trois statuts de l'informel. Le passage. Certaines actions peuvent être repérées et du coup peuvent être intégrées dans les organisations. L'équivoque sur l'indétermination du statut. L'infirmier qui est à la salle de télé ou qui lit le journal dans le salon. Est-ce qu'il travaille ? Il ne travaille pas. Ça, c'est une question importante. Quand on voit ce que ça peut générer en termes de quiétude, d'accès à l'autre, d'observation, de mise en lien, c'est l'indécidabilité de cette question en posant le statut qui est le gage de son efficacité. Le troisième point, c'est les statuts résiduels de l'informel. Notre travail n'épuise pas le sujet. Alors, les trois destins de l'informel. Dans les organisations, le premier point, si on regarde du côté de l'organisation, on peut voir ça comme du temps mort. Donc, si c'est du temps mort, c'est du pas de consistance, pas de saisie. Le deuxième point, du côté de la prescription, ça peut être du temps mou sur lequel on peut prendre effectivement quelque chose. Donc, dans ces cas-là, c'est un temps non productif. Et le troisième point, dans l'ensemble des équipes qu'on a investiguées, et là, la position des cadres et des médecins psychiatres référents était importante, c'était que c'était une partie intégrante du travail, voire un des éléments cœur de travail en unité temps plein. Autrement dit, cette sensibilité au travail faisait que ces actions étaient repérées comme des actions inscrites dans le projet de l'unité. Quel est le statut de ces savoirs, formels, informels ? Ici, on ne parle pas de l'activité, on parle de la formalisation du savoir, c'est le réfléchissement de l'action. C'est la capacité à pouvoir repérer, nommer, mettre en lisibilité son action. La vise donc, on passe d'un travail singulier à la possibilité plurielle de le partager. On passe d'un mode de construction inductif à un mode de construction déductif, parce qu'on peut le partager et le mettre en mots. Ce travail qui est attaché au départ à une situation est reproductible, et les situations qui viennent après peuvent être vues comme des variantes des situations précédentes. Et enfin, cette expression qui était invisible et qui ne donnait pas lieu effectivement à repérage devient une activité qui peut être alors explicite. Alors aujourd'hui, avec des résultats de recherche, on voit que l'ensemble de cette activité du quotidien, quand elle est pensée, quand elle est vectée, quand elle est soutenue également par des lignes de pensée institutionnelles, médicales et managériales, permettent d'utiliser l'ensemble du dispositif de soins hospitaliers, c'est-à-dire le réel, les objets du quotidien, comme autant de médiateurs de la relation. C'est-à-dire que chaque situation du quotidien est utilisée comme un appui pour faciliter, observer, faciliter, essayer de construire quelque chose d'éléments de relation avec nos patients. À ce point, c'est important parce qu'on sait très bien, et ça a été dit ce matin, je crois que c'était Nicolas Franck qui disait que 13,5% des patients, au bout de 2 ans, peuvent prétendre à un parcours de rétablissement. Ensuite, j'entendais Julien Dubuc qui disait « Mais on va créer une relation de confiance. » La question, c'est « Et comment on s'y prend ? Comment on fait pour construire une relation de confiance ?» Et si qu'on avait construit une relation de confiance, plus de la moitié du travail était fait. Parce qu'on sait très bien que la question de la relation de confiance va induire la question d'une alliance thérapeutique. On connaît le pronostic positif de l'alliance thérapeutique sur le parcours de soins. Et donc, on peut très bien penser que les éléments des 86% de patients qu'on ne voit pas, cette question effectivement initiale de la confiance peut se travailler dans ces situations si on veut optimiser les possibilités d'action sur le travail réel, ici, des infirmiers. Voilà. Donc, l'informel s'avance ici comme une variable masquée de l'activité. Une dernière planche pour parler maintenant, dans ce contexte tout à fait émergent de la recherche en soins en psychiatrie, des perspectives à notre niveau. Alors, à notre niveau, un groupe s'est mis en place pour diffuser, reprendre cette question de diffuser une culture de recherche. Pascal Mariotti nous disait ce matin, il y a un temps de latence important pour passer d'une absence de culture, quand ce n'est pas parfois une contre-culture de recherche, à diffuser des résultats. Ainsi, différents groupes, Marie le dira, se mettent en place dans des recherches professionnelles avec une formation courte, opérationnelle, puis une formation, un accompagnement plus long, qui peuvent faciliter, démonter ou des dépôts en lettre d'intention en PHRIP. Je sais qu'à Montfavet, j'ai entendu le directeur de Montfavet parler ce matin, il y avait également un groupe qui se met en place. L'autre point, donc, c'est au niveau régional. Pascal Mariotti pourra nous en dire quelques mots. C'est également la place de la recherche pour élargir la base locale ici d'un établissement à une base beaucoup plus large qui serait une base régionale. Le troisième point, c'est la question, dans ce contexte émergent et assez faible, de mettre en lien les différents acteurs, donc de créer des réseaux, d'abord se connaître pour se faire connaître, puis se faire reconnaître. C'est ainsi qu'on organise à Lyon, début janvier, les deuxièmes rencontres de la recherche en soins en psychiatrie pour présenter des travaux, faire connaître un certain nombre d'acteurs. Je vois qu'il y a ici un collègue qui est titulaire du PHRIP 2013 sur l'alliance thérapeutique en psychiatrie, frein et levier à la construction de l'alliance thérapeutique en unité de soins entre infirmiers et soignants. Il viendra nous présenter son rapport d'étape et ce sont vraiment des questions centrales dans les soins. Enfin, le dernier point, c'est les collaborations qu'on a pu avoir, notamment au niveau international, avec ici la Belgique et la Belgique francophone, qui a intégré un certain nombre de nos résultats. Initialement, dans les contacts, il devait y avoir un représentant de la fédération hospitalière auquel on avait pensé pour intervenir, qui aurait pu nous donner l'idée d'une fédération sur ces questions. Et puis, il n'a pas pu venir pour des raisons, disons, itérative dans leur contexte actuel belge. Et c'est Marie Laluc qui viendra nous présenter l'état d'une réintégration des résultats dans une dynamique d'établissement. Ensuite, la question de l'opérationnalité des résultats. C'est une des forces, sans doute, de la recherche en soins. C'est la transférabilité relativement rapide de la possibilité de transmettre des résultats. Ainsi, nos collègues ont construit des outils qui sont, par exemple, ici, c'est un outil d'appropriation, ce petit carnet. C'est l'ensemble des résultats. C'est un outil qui favorise la connaissance de l'action, donc son repérage, donc sa mise en mots, donc sa communication, donc pour monter en professionnalité. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'étais dans un des grands établissements de la couronne parisienne pour lancer une dynamique de recherche. Et c'était l'établissement en question a commandé 700 exemplaires de ce petit carnet. Voilà, en quelques mots, les éléments de la recherche.